Donc c'était une revendication évidemment fantaisiste, enfin irréaliste, mais les mineurs étaient tellement en colère et tellement fatigués de négocier avec une direction très dure que tout a dégénéré au mois d'août. Avant le massacre, il y avait déjà eu des violences intersyndicales, des délégués syndicaux se sont fait tailler en pièces, il y avait des rivalités entre les syndicats qui se sont soldées par des morts, et deux policiers se sont aussi fait tailler en pièces par des mineurs. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait une tragédie. Sinon, ailleurs, les formes de mobilisation sociale ne sont plus celles de l'apartheid.
J'ai l'impression que ça reste un pays très violent. J'ai fait des reportages à l'époque, en 91, 92, c'était un pays extrêmement violent, l'Afrique du Sud.
La violence est multiforme en Afrique du Sud et elle vient d'une longue histoire, trois siècles de colonisation, des luttes, des guerres, la guerre anglo-boure, avant ça la guerre avec entre les Zoulous et les Xhosa, la guerre chez les Zoulous avec un grand mouvement dissident à l'intérieur de la nation Zoulou qui a formé le clan Ndebele, le Matabeleland et toute cette population Zoulou qui habite au Swaziland et au sud du Zimbabwe aujourd'hui. Tout ça c'est une histoire de grande violence. La guerre anglo-boure, les premiers camps de concentration du monde moderne. C'était pendant la guerre entre les Afrikaners et les Anglais. Ensuite, le passage de l'ANC à la lutte armée et la répression massive, la répression mais institutionnelle. Il faut s'imaginer l'apartheid comme 50 ans de nazisme en France, si vous voulez. Et quelque chose de même pire, parce qu'on faisait exploser les opposants la nuit dans leur bicoque avec des bombes et les familles récupéraient des bouts de paupières sur le plafond, quoi. Et cette violence a laissé des séquelles extrêmement profondes. D'ailleurs, les Sud-Africains eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses à la violence qui les touche de plein fouet. Les gens s'interrogent sur les causes profondes du viol. On ne comprend pas, dans ce pays pacifié, pourquoi le viol reste aussi important. Pourquoi une femme sud-africaine sur trois est violée dans sa vie? Pourquoi un homme sur quatre admet avoir violé? Pourquoi un homme sur neuf admet avoir été violé? C'est un problème monstrueux que personne n'a commencé à aborder frontalement. C'est toujours indirect, c'est toujours un peu sous le tapis.
C'est important quand on pense que la place que l'Afrique du Sud occupe comme modèle en Afrique. On cite toujours l'Afrique du Sud comme la partie la plus développée, la plus moderne de l'Afrique.
Bien sûr, l'Afrique du Sud reste le modèle et si vous voulez, le pays laboratoire de l'avenir du continent. Tous les pays d'Afrique sont très intéressés par ce qui se passe en Afrique du Sud parce que pour eux, cette démocratie est le fruit d'une histoire évidemment unique et très particulière qui n'est comparable à rien d'autre sur le reste du continent, mais une démocratie exemplaire avec un pays industrialisé où il y a une longue tradition de lutte syndicale, où vous avez l'ANC qui est le plus vieux parti politique du continent africain, fondé en 1912, où vous avez une presse indépendante qui a toujours eu l'habitude de contester les pouvoirs en place, un système judiciaire plus ou moins indépendant. Et donc des fondations très solides, plus solides que partout ailleurs, d'une vraie démocratie. Et la déception est évidemment aussi très intense pour le reste de l'Afrique quand on voit les dérapages de cette jeune démocratie sud-africaine qui avait tout pour réussir quelque part au départ et qui est en train de dilapider ses atouts.
Manini we matout, manini we savele dama. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Alors, là, c'est un dossier du diplôme de ce mois de mars sur l'Irak, parce que c'est le 10e anniversaire du début de cette guerre. Il y a un long papier sur où en est l'Irak aujourd'hui. Et puis, Jean-Pierre Serini revient sur cette guerre qui n'était absolument pas, nous disait